الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه ليلة العاشر من شهر شوال عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من هذا الكتاب فقه الأدعية والأذكار. Nous sommes le 25 juillet 2015 et nous entrons dans le cours 24 ou 25. J'ai une hésitation. De ce livre, la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, Hafidahullah. La fois passée, nous nous sommes arrêtés dans le chapitre « Ce qu'il faut dire aux malades ». Lorsque tu vas visiter un malade, il y a des comportements à voir, il y a des choses à lui dire pour faire naître en lui l'espoir qu'Allah Azza wa Jal va le guérir. Et les croyants se rendent visite particulièrement quand ils tombent malades. Nous avons lu certains textes, certains hadiths, et le suivant est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, et c'est le compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a visité Sa'ib ou bien al-Musayyib, c'est une femme parmi les femmes des compagnons radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ma laka ya Sa'ib ou al-Musayyib tuzafzifin أي ترعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Le prophète dit à cette femme صلى الله عليه وسلم: qu'as-tu donc, ô la mère de un tel, à trembler de cette façon? Cette femme lui a dit: c'est la fièvre, qu'Allah ne mette pas de baraka, qu'Allah ne bénisse pas la fièvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: n'insulte pas la fièvre, car elle fait partir les péchés des enfants d'Adam, comme le feu fait partir l'impureté sur le fer. Ici, qu'est-ce qu'on apprend? À accepter ce qui vient d'Allah et à voir les sagesses de ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu tombes malade, tu sais que c'est Allah Azza wa Jal qui décide, c'est lui qui donne la guérison, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te plaindre ni insulter cette maladie qui t'a touché. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son ouvrage Al-Adab al-Mufrad, selon Saïd ibn Wahb, qui a dit: Kuntu ma'a Salman, wa'ada maridan fi kinda, falamma dakhala alayhi qala abshir, فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. سبحان الله. On nous raconte que ce compagnon est allé visiter un malade et lui a dit: réjouis-toi, car la maladie qui touche le croyant, Allah en fait une expiation pour les péchés. Quand tu es malade, Allah Azza wa Jal te pardonne à cause de cette maladie. Il t'efface tes fautes et tes péchés, et un moyen de t'excuser à Allah. Alors que la maladie du pervers, celui qui désobéit à Allah, celui qui est mauvais, quand il tombe malade, la maladie pour lui, c'est différent de la maladie pour le croyant. C'est à l'image d'un chameau qui a été attaché par son maître et ensuite qui a été détaché. Il ne sait pas pourquoi on l'a attaché et ne sait pas pourquoi on l'a détaché. C'est-à-dire que la maladie qui touche autre que le croyant, soumis aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne sait même pas pourquoi il est malade. Ça ne lui sert à rien. On ne lui pardonne pas ses péchés. On ne lui efface pas ses erreurs, c'est inutile pour lui. Alors que le croyant, quand il est malade, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un bien pour lui. Donc, il lui a annoncé la bonne nouvelle et lui a rappelé que les malheurs qui touchent le croyant dans son corps sont des expiations, des fautes. Allah azza wa jal pardonne à travers celle-ci ses péchés. L'imam al-Bukhari muslim rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à chaque fois qu'un mal, une maladie, une douleur, une tristesse, une affliction touche le croyant, quelconque nuisance, jusqu'à l'aiguille, le piquant, quand il se fait piquer, l'aiguille d'un buisson ou autre, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui efface ses péchés par cette douleur qu'il ressent. Plus tu as mal, plus Allah te pardonne, t'enlève tes péchés. Et même si c'est une petite aiguille qui t'a touché le bout du doigt, Allah tabaraka wa ta'ala te donnera quelque chose d'équivalent en expiation des péchés subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète nous enseigne que la maladie sallallahu alayhi wa sallam est en même temps un moyen de se rappeler de tes péchés. Quand tu tombes malade, tu te rappelles de tes péchés. Je me souviens d'un frère qui est tombé malade et qui a perdu 18 kilos lorsque nous étions au Yémen. Et ce frère a eu pour première réaction de me dire: j'ai fait trop de péchés. Ça, ou cette réaction, est la réaction du croyant. C'est la réaction du croyant qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'aujourd'hui tu vois beaucoup de gens, quand ils tombent malades, ils se plaignent. Ils oublient que peut-être cette maladie est le résultat de leur péché. Ils se plaignent, ils n'acceptent pas ce qui vient d'Allah. Et tu n'entends pas de belles paroles qui sortent de leur bouche, malheureusement. Et ceci est le fruit de l'ignorance, le fait de ne pas connaître Allah, de ne pas connaître la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi un moyen pour lui de se remettre en question et de revenir à Allah, de corriger ses fautes. Al-Sheikh Abd al-Razzaq a dit: وَيَنْبَغِي عَلَى مَنْ أَرَادَ عِيَادَةَ مَرِيبٍ أن يتخير الوقت المناسب لعيادته. Il convient à celui qui souhaite rendre visite au malade de le faire au temps qui convient. Tu ne vas pas lui rendre visite au moment où tu sais qu'il va dormir, car il y a aussi des comportements à avoir quand tu rends visite à un malade que beaucoup n'ont pas. Car le but de la visite qui est rendue au malade, c'est de lui reposer quelque peu et d'apaiser son cœur. Ce n'est pas d'alourdir la difficulté qu'il porte déjà. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester longtemps chez le malade. Tu rends visite à un malade, il est très fatigué et tu restes longtemps. Il y a beaucoup de gens qui agissent de cette façon. Ils restent très longtemps, le malade a honte. Il a honte de dire qu'il est gêné. Et les gens s'assoient et discutent. Ensuite, si on regarde les sujets, tu vois que les gens, la plupart du temps, parlent de dunya. L'individu, le frère, la sœur est malade. Au lieu de lui rappeler Allah, Azza wa Jal, au lieu de lui parler de la récompense d'Allah, les gens lui rendent visite et lui parlent des choses qui n'ont pas la moindre valeur. Et ceci est inutile. Sauf dans le cas où le malade veut qu'il reste. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais en général, il ne faut pas rester longtemps quand tu rends visite à un malade. Il fait partie de la sunna, lorsque tu rends visite à un malade, de t'asseoir à côté de sa tête. Le malade est couché, il est allongé. Il fait partie de la sunna de t'asseoir à côté de sa tête. Et l'imam al-Bukhari a rapporté dans son ouvrage Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre magnifique qui a été écrit par l'imam al-Bukhari et qui traite des comportements du musulman dans énormément de domaines et de chapitres. Donc parmi ces comportements, celui qui l'a rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. Quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم rendait visite au malade, il s'asseyait près de sa tête. ثم قال سبع مرات, et disait à sept reprises: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. J'implore Allah l'immense, le Seigneur de l'immense trône, de t'accorder la guérison sept fois. Donc quand tu rends visite à un malade, si tu ne connais pas ces paroles, prends avec toi le livre. Si tu peux l'apprendre, c'est un bien, et alhamdoulillah. Si tu ne peux pas l'apprendre, prends avec toi le livre et lis cette phrase sept fois sur le malade. Et tu vois dans cette phrase que tu demandes la guérison à Allah pour le malade. فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرُ عُوْفِيَ مِنْ وَجِعِ. Si son terme n'est pas destiné après cette maladie, si Allah n'a pas destiné qu'il mourra de cette maladie, Allah le guérira par ta doua, par ton invocation. Il fait aussi partie de la sunna, pour celui qui rend visite au malade, de poser sa main sur le corps du malade. Lorsque tu veux faire une invocation pour lui, tu t'assois près du malade, à côté de sa tête. Ensuite, tu poses ta main, comme tu vas le voir dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite au noble compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur son front et il a passé sa main sur son visage et sur son ventre. Puis il a dit: Allahumma shfi Sa'dan. Oh Allah, guéris Sa'd. Donc quand tu rends visite à un malade, tu lui rends visite au temps qui est le meilleur, qui correspond. Tu t'assois à côté de sa tête, tu ne restes pas trop longtemps, et tu poses ta main sur son front, puis sur son ventre, et tu dis: Oh Allah, guéris un tel, et tu cites son nom. وَفِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيدِ تَأْنِيسٌ لَهُ. Car lorsque tu poses ta main sur le malade, il se sent en compagnie. Il sent qu'on lui donne de l'importance. Il sent que quelqu'un est avec lui et le malade en a besoin. وَتَعَرُّفْ عَلَى مَرَضِهِ شِدَّةً وَضَعْفًا وَتَلَطُّفٌ بِهِ. Et lorsque tu poses ta main sur lui, ça permet aussi de voir la situation de ton frère, la maladie qu'il a et sa gravité plus ou moins grave, et d'être doux envers lui. Il convient aussi à celui qui rend visite au malade de lui prodiguer le conseil et de le conseiller d'invoquer Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, tu vois des gens qui rendent visite au malade. Puis quand ils entrent dans la chambre, dans l'hôpital ou chez lui, dans sa maison, la première chose qu'ils leur disent: tu as maigri, ton visage est bleu, ça se voit que tu es très fatigué. C'est très mauvais de parler comme ça au malade. Le malade, il ne faut pas lui montrer que tu as remarqué qu'il est malade, qu'il est mal en point. Il ne faut pas lui montrer que tu as remarqué qu'il a maigri, qu'il est triste, qu'il a des problèmes. Il a déjà assez de soucis pour que toi qui es censé l'apaiser, lui en rajoute. Et ça, c'est le comportement de beaucoup de gens. Et ça, c'est une erreur. Tu dois venir agir selon ce que t'enseigne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le conseilles d'invoquer Allah et tu ne dis que du bien auprès de lui. Tu ne parles pas en mal quand tu es malade, car il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les anges sont à côté et disent amin à ce que tu dis. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Umm Salama radiyallahu anha, qui a dit, c'est donc une femme, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha hadartumul marid, lorsque vous vous présentez au malade, aw al mayyit, ou le mort, faqulu khayran, dites du bien. Lorsque tu es à côté d'un malade ou d'un mort, dis des bonnes paroles. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Car les anges disent amin sur ce que vous dites. Donc c'est très important de choisir les bonnes paroles lorsque tu rends malade, lorsque tu rends visite à un malade. Aussi, tu dois choisir pour lui des invocations. Toi, tu dois invoquer pour lui. Et tu dois choisir les invocations qui lui seront le plus utiles par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc t'accrocher particulièrement aux invocations que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans les invocations que tu trouves dans la sunna, il y a le salut. Et tu es préservé de dire des mauvaises choses. Car il y a des gens qui veulent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui disent des paroles qui viennent d'eux. Il se peut qu'ils fassent erreur. Alors que celui qui apprend les du'as de la sunna va être préservé de l'erreur, sans le moindre doute. Donc tu dis par exemple Allahumma shfi fulanan, ou Allah guérit un tel, ou bien celle qu'on a vue auparavant, la ba's tahurun insha'Allah, tu dis au malade nul mal, c'est une purification insha'Allah. Ou bien tu dis celle qu'on vient de voir, as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiak, j'implore Allah l'immense, le Seigneur du trône immense, de t'accorder la guérison. Ou bien tu dis, donc ce sont des invocations qu'on a déjà vues, car ici nous sommes dans le chapitre de ce qu'il faut dire aux malades lorsque tu leur rends visite. Allahumma rabban nas adhib al-bas, oh Allah Seigneur des hommes, dissipe le mal, washfi et guéris-le, anta shafi, tu es le guérisseur, la shifa'a illa shifa'uk, il n'y a de guérison que la tienne, shifa'an la yuradiru saqama, accorde-lui une guérison qui ne laisse place à plus aucune maladie après. Donc tous ces hadiths là nous les avons déjà vus. Il y a aussi le fait de réciter suratul fatiha sur le malade. Tu vois qu'il est malade, tu t'assois à côté de lui, tu récites alhamdulillahi rabbil alamin, surat al fatiha. Il y a aussi le fait de réciter qul huwallahu ahad, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذات les protectrices. Salam. Nous avons vu cela dans des hadiths. Nous avons aussi vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme ruqya, comme parole qu'il prononçait dans le but de solliciter la guérison d'Allah azza wa jal, bismillahi arqiq min kulli shay'in yu'dhik, au nom d'Allah je récite sur toi pour te t'épargner, pour qu'Allah te guérisse de tout mal qui te fait nuisance, min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasid, Allahu yashfik, contre le mal de tout mauvais œil ou tout jaloux, qu'Allah te guérisse, bismillah arqik, au nom d'Allah je récite sur toi. Tu vois ici la gravité du mauvais œil, et on en a déjà parlé dans un chapitre dédié au mauvais œil. C'était les deux derniers cours. Donc c'est la ruqya qui a été prononcée par l'ange Jibril alayhi salam sur le prophète sallallahu alayhi salam lorsqu'il se plaignait, lorsqu'il se sentait malade sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans le recueil de Al-Bukhari et de Muslim, on nous rapporte que Aisha radiallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu lil marid, disait au malade bismillah turbatu ardina bi ruqyati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Donc c'est une parole qu'il répète aux malades dans le sens rapproché, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite le nom d'Allah, donc il lui demande de l'aide tabaraka wa ta'ala, puis il va citer que c'est par la cause de la ruqya que l'un d'entre nous fait à l'autre que le malade est guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre concernant ce qu'il faut dire au malade quand on lui rend visite. Celui qui est malade, qui est atteint d'une maladie incurable, dont on ne trouve pas la guérison, de manière générale, qu'est-ce qui se passe ? Il meurt. C'est pour cela que le chapitre suivant est « Qu'est-ce qu'il faut dire à celui qui agonise ?» Celui qui est en train de mourir. Tu sais qu'il est en train de mourir devant toi. Qu'est-ce que tu dois lui dire si tu es là ? Car il y a énormément de gens qui ont un très mauvais comportement. Quand ils sont devant des gens qui sont en train de mourir, ils ont un très mauvais comportement. Wal'iyadhu billah. Et c'est très grave. Parce que selon les paroles que tu vas dire, il se peut que cette personne qui agonise quitte ce bas monde en désespérant de la miséricorde d'Allah. Azza wa jalla. Subhanallah. Alors que si tu dis de bonnes paroles, il se peut qu'elle quitte ce bas monde en espérant la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a ce chapitre et d'où son importance. Al-Sheikh Abdul Razak dit: la chose la plus importante à faire lorsque on assiste à l'agonie d'une personne, quelqu'un qui est en train de mourir, c'est de ne dire que du bien en sa présence. Le hadith, vous venez de l'entendre, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, selon la femme Umm Salama, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, lorsque vous vous présentez aux malades ou aux morts. Donc ici on ne parle pas de quelqu'un qui est mort, on parle de quelqu'un qui est sur l'agonie, il est en train de mourir. Dites du bien, car les anges disent Amin sur ce que vous dites. Et Amin, c'est une parole par laquelle on demande la validité des paroles qui sont prononcées. Si tu dis du mal, ils disent Amin. Si tu dis du bien, ils disent Amin. On doit aussi faire tout pour que celui qui agonise prononce la parole de la ilaha illallah avant de mourir, pour qu'elle soit la dernière parole qu'il ait prononcée dans ce bas monde. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est rapporté par les musulmans selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites prononcer ou faites dire à vos morts la ilaha illallah. À vos morts, c'est-à-dire ceux qui agonisent, bien sûr. Aussi, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui est connu de beaucoup de gens. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Si la dernière parole que tu dis avant de mourir est la ilaha illallah, et que bien sûr, tu remplis ces conditions indispensables, ce que implique la prononciation de cette parole, tu entres au paradis, comme le prophète l'a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, chez l'imam muslim, il y a Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. » Quiconque meurt tout en sachant que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration entrera au paradis. Et ceci est la première condition de la ilaha illallah pour qu'elle te soit utile. Car il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. C'est pour cela qu'on a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah, un pieux prédécesseur. N'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé qui ouvre le paradis ? Al-Hassan a répondu, bien sûr que si, mais il n'y a pas de clé sans dents. Si tu prends une clé pour ouvrir une porte sans dents, la clé n'ouvrira pas. Mais si tu as la clé avec ses dents, la porte s'ouvrira. De quoi est-ce qu'il parlait des dents? De ce qu'implique la ilaha illallah. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui va demander aux morts, il va demander aux morts la guérison. Il peut la prononcer 6000 fois s'il veut. Elle ne lui sera d'aucune utilité chez Allah. Azza wa Jal. Donc il y a des conditions qui ont été énumérées par les savants. Et parmi ces conditions, la connaissance de son sens. Et on la retrouve ici. En unissant les deux hadiths, dans le premier, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entre au paradis. Dans le deuxième, celui qui meurt tout en sachant la ilaha illallah entre au paradis. Donc, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah en connaissant son sens entre au paradis. C'est ainsi qu'en unissant et en conciliant les textes, on comprend leur sens qui est voulu par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le sujet n'est pas les conditions de la ilaha illallah. Vous les trouverez dans le livre « Les obligations que tout musulman et musulmane doivent impérativement connaître ». Et Allah Azzajal nous a facilité de l'enseigner et les cours sont diffusés. Alhamdulillah. Aussi, l'imam Ahmad rahimahullah rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit ici, Ada rajulan milan ansar, a rendu visite à un homme parmi les ansar. Les ansar, ce sont les habitants de Médine. Il y a les compagnons qui sont venus de la Mecque pour émigrer à Médine, et ceux qui se trouvaient déjà à Médine, ce sont eux que l'on appelle al-ansar. فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Le prophète est allé rendre visite à cet homme-là عليه الصلاة والسلام et lui a dit: ô oncle, dis la ilaha illallah. Et à la fin du hadith, l'homme lui dit: est-ce un bien pour moi de dire la ilaha illallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui, c'est un bien pour toi. Ensuite, le Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah va citer l'histoire connue du savant parmi les savants anciens de la sunna, l'imam Abu Hatim al-Razi, qui fait partie des ulama al-hadith, des savants du hadith. C'était quelqu'un qui était connu tant pour sa science que pour sa piété et son expérience. À la fin de sa vie, lorsqu'il était à l'agonie, ses élèves sont venus à côté de lui. Ils se sont présentés à lui pour le pousser à dire la ilaha illallah. L'histoire nous est racontée ici. Et c'est la suivante. C'est que un de ses élèves a dit: je me suis présenté à Abu Hatim, Muhammad ibn Idris, pardon, avec Abu Hatim, Muhammad ibn Idris, chez Abu Zur'a, na'am, al-Razi, car il y a deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a. Ici, on parle de Abu Zur'a, et Abu Hatim lui a rendu visite. Et les deux sont connus, font partie des savants des salaf, savants de la sunna des anciens. Ubaydullah ibn Abdul Karim al-Razi wa huwa fi an-naz', alors qu'il était à l'agonie. Faqultu li Abi Hatim, cet homme qui est Muhammad ibn Muslim, un des élèves du cheikh qui est en train de mourir, dit à son camarade Abu Hatim: ta'al hatta nulaqinahu ash-shahada. Allons lui faire répéter la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah. فقال أبو حاتم, أبو حاتم lui dit: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقينه الشهادة. J'ai honte devant Abu Zur'a, c'est lui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a appris, de venir lui dire de dire la ilaha illallah. Il a eu honte. فقال ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث. Mais allons pour se remémorer le hadith en sa présence. De quel hadith est-ce qu'il parle? Du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Comme il avait honte de lui dire dis la ilaha illallah et qu'il fait partie des savants du hadith, il s'est dit: on va s'asseoir à côté de lui et réciter le hadith. Lui, quand il va l'entendre, il va se rappeler et prononcer la ilaha illallah. فَلَعَلَّهُ إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ. Il se peut qu'en l'entendant, il le répétera. قال محمد بن مسلم le premier élève qui est Muhammad ibn Muslim qui lui aussi fait partie des savants du hadith a dit فَبَدَأْتُ فَقُلْتُ j'ai commencé à dire حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمْ النَّبِيلِ قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. J'ai voulu citer la chaîne de narrateurs de hadith pour qu'ils s'en souviennent jusqu'à ce qu'ils sachent que je parle ce hadith. J'ai commencé à citer un nom, deux noms, puis tout ceci s'est chamboulé, s'est embrouillé ou est paru, est devenu confus dans mon esprit. Et j'avais l'impression de ne jamais avoir appris ce hadith. Le deuxième est arrivé. فَبَدَأَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَارْتَجَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَأَنَّهُ مَا قَرَأَهُ وَلَا سَمِعَ. Puis le deuxième s'est mis à réciter la chaîne de transmission et il s'est embrouillé. Il avait l'impression de ne jamais avoir appris de sa vie ce hadith-là. فَبَدَأَ أَبُو زُرْعَ C'est Abu Zur'a qui va prendre la relève. Et ici, on ne donne pas cette information qui est importante, car il était allongé et il a fait signe avec sa main à ses deux élèves, « Mettez-moi en position assise. » Il n'avait pas assez de force pour leur dire, mais il l'a dit avec sa main. Ils l'ont mis en position assise, « Rahimahullah » et il a commencé. Et puis il a dit alors qu'il était en train de mourir حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a cité toute la chaîne de narrateurs, ceux qui ont narré ce hadith, jusqu'à Abu Huraira, jusqu'au messager صلى الله عليه وسلم. Vous connaissez le hadith, celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. Et voici que Abu Zur'a dit: man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, celui dont les dernières paroles de ce bas monde seront la ilaha illallah, il a eu à peine le temps de prononcer la lettre ha, la ilaha illallah, que Allah a repris son âme. Il n'a pas complété le hadith. Allah a voulu que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Car s'il avait dit dakhala al-jannah, sa dernière parole aurait été dakhala al-jannah. Subhanallah. Rahimahullah. Abu Zur'a al-Razi, un savant du hadith, un savant de la sunna très connu. Rahimahullah. Et ça, c'est un des signes de la bonne fin. Celui qui arrive à dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est un grand bien pour lui. Qu'Allah lui a voulu, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abdul Razak va citer qu'il y a parmi les invocations magnifiques que doit prononcer celui qui meurt, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcée lorsqu'il a demandé le pardon et la miséricorde. Elle est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiallahu anha, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa asghat ilayhi qabla an yamut wa huwa musnidun ilayya dhahrah yaqul Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq al-a'la. Aïcha a entendu le prophète juste avant de mourir dire ces paroles-là. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la plus haute compagnie. Ceci sont les paroles ou parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu l'apprends dans l'espoir qu'Allah t'aide à la prononcer, Allah est capable de tout. Nas'alullah min fadli. On implore Allah de nous accorder sa grâce et de faire que il nous accorde une bonne fin où il nous laisse le temps de lui demander pardon avant de quitter ce bas monde. Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les choses qu'il faut rappeler à celui qui est à l'agonie, celui qui est en train de mourir, lorsque tu es à côté de lui, il ne faut pas avoir ces comportements de la plupart des gens. C'est vrai que ça peut être choquant, ça peut perturber car c'est inhabituel de voir quelqu'un mourir. Mais il faut maîtriser sa personne et tenter au maximum de garder son sang-froid. Car cette personne qui est en train de mourir a besoin de toi à ce moment-là. Elle a besoin que tu l'orientes vers ce qu'il y a de meilleur pour elle. Donc, tu dois faire ton possible pour adopter ces comportements parmi lesquels celui-ci. Le fait de l'aider à penser du bien d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas laisser quelqu'un désespéré d'Allah, désespéré de la miséricorde d'Allah. Tu vois quelqu'un allongé qui te dit « Allah ne va pas me pardonner », tu ne dois pas laisser cette personne croire qu'Allah ne va pas lui pardonner. Subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu m'a dit: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث. J'ai entendu le prophète trois jours avant de mourir dire: يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. Rapporté par Muslim. Que l'un d'entre vous ne meure qu'en ayant une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire, ne quittez pas ce bas monde en pensant du mal d'Allah. Ne dites pas qu'Allah ne va pas vous pardonner. Ne dites pas qu'Allah Azza wa Jal ne va pas vous effacer vos fautes et vous expier vos péchés. Pensez du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu rends visite à un malade, surtout quelqu'un qui est à l'agonie, parle-lui de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parle-lui de l'étendue de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abi Dunya a rapporté dans son écrit intitulé justement Husnul Dhanni Billah, la bonne opinion envers Allah, que le tabi'i Ibrahim An-Nakhai rahimahullah a dit: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته كي يحسن ظنه بربه. Ils aimaient, il parle des compagnons, ils aimaient beaucoup rappeler au serviteur qui était à l'agonie, il était en train de mourir, les bonnes actions qu'il faisait au moment de sa mort. Il venait le voir et lui disait: ne t'inquiète pas, tu as fait beaucoup de bien, on se souvient du jour où tu as dit telle et telle parole, où tu as fait telle et telle action. Ceci afin qu'il éprouve ce sentiment de la bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de hadith authentique, écoutez bien, qui stipule de réciter le Coran sur le mort ou sur celui qui est à l'agonie. Ceci n'est pas de la sunna. Le hadith où on voit qu'il faut réciter surat Yasin sur celui qui est en train de mourir est faible. Et lorsque vous voyez un hadith, il faut le soumettre à la science du hadith. Et il faut voir ce que les savants connaisseurs de l'authenticité ou de la non-authenticité des hadiths ont dit pour pouvoir appliquer le jugement qui s'y trouve ou non. Et ici, les savants ont jugé ce hadith faible. Ainsi, il n'y a pas de sunna qui nous demande de réciter surat Yasin sur le défunt ou sur celui qui est à l'agonie. D'ailleurs, le Coran est pour les vivants et c'est dans le surat Yasin même qu'Allah nous le dit, tabaraka wa ta'ala. Aussi, celui qui est à l'agonie doit observer lui-même des comportements. Donc ça, bien sûr, ce sont des choses qui s'apprennent. S'il ne les a pas apprises et l'agonie lui vient, si Allah ne le guide pas à ces choses-là, ne pourra pas les mettre en pratique. D'où l'importance de la science. Dans la religion, on t'enseigne même le comportement à avoir pendant que tu es en train de mourir. Allahu Akbar. Quelle magnifique religion. Subhanallah. Et parmi ces comportements-là, il y a le fait d'être satisfait du décret d'Allah et de ce qu'il a décidé. Tu dois être accepter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci afin d'obtenir la récompense de ceux qui endurent l'épreuve. Et l'imam Muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Suhayl, ou Suhayl radiallahu anhu, le hadith est connu. Ajaban li amri al-mu'min, étonnant est le cas du croyant. Inna amrahu kullahu khayr, son cas est un bien entier. Wa laysa dhaaka li ahadin illa lil-mu'min, et ceci ne se réalise que sur le croyant. Qu'est-ce qui se passe? In asabathu sarra shakara fa kana khayran lah. Si un bien l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est bon pour lui. Wa in asabathu darra, et si un mal l'atteint, sabara, il fait preuve d'endurance, fa kana khayran lah, et c'est bon pour lui. Pourquoi? Parce que le croyant, il adore Allah tabaraka wa ta'ala tant dans l'aisance que dans la calamité. Dans l'aisance, il adore Allah avec la reconnaissance. Dans la calamité, il adore Allah avec l'endurance. Et donc, si un bien l'atteint, non seulement il tire profit de ce bien, il jouit de ce bien, et en plus il se montre reconnaissant envers Allah, et Allah le récompense pour sa reconnaissance et lui donne un bien meilleur encore, Azza wa Jal. Et si un mal l'atteint, il se montre endurant. Ce mal sera une cause pour que ses péchés lui soient pardonnés, et l'endurance dont il a fait preuve devant cette épreuve lui sera récompensée par Allah. C'est pour cela qu'il dit ceci n'est le cas que d'un croyant. Hein? Ceci n'est le cas que d'un croyant. Deuxième comportement que celui qui agonise doit avoir. Il ne doit pas espérer la mort. C'est une erreur. Le malade ne doit pas dire « Oh Allah, reprends-moi. Oh Allah, je veux mourir. » Il ne doit pas agir ainsi. Même si la maladie s'alourdit de plus en plus, si bien qu'elle lui devient ou lui paraît insupportable. Car l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté le hadith relaté par Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. Que l'un d'entre vous n'espère jamais de mourir à cause d'un mal qui l'a atteint. Si il se sent forcé, alors qu'ils disent « Oh Allah, fais-moi vivre si tu sais que la vie est un bien pour moi, et reprends-moi si tu sais que me reprendre est un bien pour moi. » Car toi, tu ne sais pas si c'est un bien pour toi ou un mal. Peut-être que tu avais besoin d'encore quelques minutes de vie pour amasser les hasanat qui te manquaient pour entrer au paradis. Mais si tu espères la mort et Allah te la donne, tu n'as pas pu profiter de ce temps dont tu avais besoin pour te rapprocher davantage d'Allah et voir tes péchés pardonnés. C'est pour cela que tu ne dois pas espérer la mort. Mais si tu es forcé, alors, oh Allah, si la mort est un bien pour moi, reprends-moi. Si la vie est un bien pour moi, laisse-moi en vie. Plus explicite encore, rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté chez son oncle paternel, Abbas, le frère de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se plaignait de maladies dont il était victime. Quand il a entendu Abbas souhaiter la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Am, ô mon oncle, la tatamanna al-maut, n'espère pas la mort, ne demande pas la mort. فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ مُحْسِنَا فَأَن تُؤَخَّرَ تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ. Car si tu étais bienfaisant et qu'on repousse ton terme, alors c'est une occasion pour toi de redoubler d'efforts et de faire encore plus de bien que tu n'en as déjà. Si tu as 1000 hasanat et qu'il te reste du temps à vivre, ce temps qui te reste, tu peux en prendre 2000, tu peux en prendre 3000, tu peux en prendre beaucoup plus. Donc n'espère pas la mort. وَإِن كُنْتَ مُسِيْئًا, et si tu étais malfaisant, فَأَن تُؤَخَّرَ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ, et que tu sois que ton terme soit repoussé, c'est un bien, car c'est une occasion pour toi de te voir pardonner, de t'excuser auprès d'Allah, de demander pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ, n'espère donc pas la mort. Donc le musulman ne doit pas espérer la mort, même s'il est malade, même si c'est très dur. Car soit il peut faire encore plus de bien s'il en a déjà, ou bien il peut se rattraper s'il est dans le mal. Également, il faut savoir une chose, c'est que le musulman doit unir les deux sentiments qui sont en réalité des adorations, qui sont l'espoir et la peur. Le musulman doit avoir espoir en la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, mais en même temps, il doit craindre Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Il craint les conséquences néfastes des péchés qu'il a commis lorsqu'il vivait dans ce bas monde. Mais en même temps, il sait qu'Allah est miséricordieux, Subhanahu wa Ta'ala. C'est donc un équilibre qu'il a entre la crainte et l'espoir, en ayant une bonne opinion d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour cela que il y avait parmi les pieux prédécesseurs un bédouin qui a remercié Allah Azza wa Jal quand il a entendu que c'est Allah qui le jugera et pas les hommes. Parce que les hommes, quand ils te jugent, n'ont pas de miséricorde. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala te juge, il te fait miséricorde, Subhanahu wa ta'ala. Mais ceci, ce sont les bédouins de la sunna qui ont la bonne aqidah, qui ont la bonne croyance. L'imam al-Tirmidhi a rapporté, ainsi qu'Ibn Majah, selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam دخل على شاب وهو بالموت, s'est présenté à un jeune qui agonisait. Le prophète lui a dit, كيف تجدك, comment te sens-tu, comment te sens-tu? L'enfant a dit, والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. L'enfant lui dit, par Allah, ô messager d'Allah, j'ai espoir en Allah et j'ai peur pour mes péchés. Qu'est-ce que le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam? فَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافِ. Allahu Akbar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ces deux sentiments ne se réunissent jamais chez le serviteur qui est en train de mourir dans une telle situation, sans qu'Allah lui donne ce qu'il espère avoir et le mette en sécurité contre ce qu'il craint. Ça veut dire qu'avant de mourir, tu crains pour tes péchés, mais tu as espoir en Allah. Si tu unis ces deux sentiments avant de mourir, Allah Azza wa Jal te donne ce que tu espères avoir et te préserve de ce dont tu crains, le mal. Il est également recommandé d'écrire le testament. Celui qui a des choses à laisser derrière lui, celui qui a des dettes, celui à qui on doit de l'argent, celui qui a des informations, des choses importantes à laisser, il fait partie de la sunna d'écrire un testament. Et si il a des devoirs desquels il doit s'acquitter envers autrui, il doit à autrui quelque chose, argent ou autre, il doit avant de mourir rendre tout ce qu'il doit, s'il peut bien sûr. Et s'il est déjà mort, c'est sa famille qui s'en chargera à sa place dans les plus brefs délais. Car on a vu un chapitre tout entier sur la dette et son importance dans la religion. Et donc s'il ne peut pas le faire, il le laisse dans son testament. Comme ça, il sait que quelqu'un le fera pour lui. Cheikh Abdelrazak dit, le testament est une obligation. Lorsque il a quelque chose à laisser, ou on lui doit quelque chose, il écrit quelques lignes. Et ceci afin que ce dépôt ne lui soit pas perdu. Il est rapporté chez l'imam al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا وصيته مكتوبه عند راسه. Que le musulman n'a pas le droit de laisser deux nuits passer s'il sait qu'il a quelque chose à laisser, s'il sait qu'il y a quelque chose qu'il doit régler dans le cas où il meurt, sans écrire ces choses-là et avoir ce testament près de sa tête. Quant au fait d'écrire dans le testament que on souhaite que telle et telle somme soit utilisée pour telle et telle action et telle chose qui sont bonnes, ceci est recommandé et ce n'est pas une obligation. Mais c'est recommandé. Et le mort a le droit d'utiliser un tiers de ce qu'il possède, ou moins, comme ceci est venu dans un hadith. Car après, il y a l'héritage, et l'héritage c'est défini par des règles religieuses. Et là n'est pas le sujet. Il est également recommandé d'écrire, ou plutôt de recommander, d'enjoindre à ses proches qui sont autour de craindre Allah, d'obéir aux ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les mettre en garde contre les passions et les innovations. Saïd ibn Mansour a rapporté, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: كانوا أي الصحابة كانوا يكتبون في صدور وصاياهم أي في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم نبيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anas ibn Malik dit que les compagnons radiyallahu anhu avaient pour habitude d'écrire en introduction dans leur testament qu'ils recommandaient ou qu'il était quelqu'un qui prononçait l'attestation de foi correcte: La ilaha illallah wahdahu la sharika la Muhammadan abduhu wa rasuluh, qu'il croyait en leur dernière, qu'il croyait en la résurrection, et qu'il enjoignait les siens de craindre Allah et de se réformer, d'obéir à Allah et à son messager, si vraiment ils sont croyants. Puis il leur rappelait certains versets, parmi lesquels celui de Sourate Al-Baqarah, où Yaqub a dit à sa descendance: « Ô mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez donc qu'en pleine soumission. » Donc, ceci doit être dans le testament. Ça fait partie de la guidée à suivre. Et on le voit, on l'a vu dans le testament de certains contemporains qui sont morts, comme le testament de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, comme le testament de Cheikh al-Albani, rahimahullah, et autres parmi les savants de la Sunna, qui ont commencé leur testament par ces mots, justement. Presque les mêmes. Car ils connaissent la sunnah, rahimahumullah. Il fait partie aussi des comportements que l'individu enjoigne aux siens et à ses proches de l'enterrer, de préparer ses funérailles selon les rites de la sunna et sans innovation. Il doit les mettre en garde contre toute innovation et s'en désavouer. car beaucoup de gens malheureusement innovent dans le domaine des rites funéraires, de l'enterrement, de la prière sur le mort, des invocations autour de la tombe, et j'en passe. Et d'un pays à un autre, ce ne sont pas des centaines, mais plutôt des milliers d'innovations qui ont été inventées, alors que rien de tout cela n'est légiféré par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement s'il craint, il sait qu'il est entouré de personnes qui sont ignorantes, qui n'ont pas de bonnes connaissances, il doit écrire cela. Car au moins, même s'ils le font, il sera innocent chez Allah, car il aura fait son devoir de transmettre ce qu'Allah a révélé, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Musa, le compagnon, radiallahu anhu, lorsque la mort est venue à lui, a dit: إِذَنْ طَلَقْتُمْ بِجَنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِيَ الْمَشِي. Lorsque vous me porterez et que je serai mort, dépêchez-vous. Pourquoi? Parce que c'est une sunna. C'est une sunna de s'empresser. On ne doit pas marcher tout doucement. On doit se dépêcher d'aller enterrer le mort. Sans chant, sans invocation commune, sans toutes ces choses-là. Il leur dit: voilà, tutbi'uni bimijmar. Voilà, taj'alanna ala lahdi shay'an yahulu bayni wa bayna turab. Voilà, taj'alanna ala qabri bina'an. Qu'il cite, il leur interdit de mettre quelque chose entre lui et la terre, à part le linceul, bien sûr, le drap. Il leur interdit d'édifier ou de construire sur sa tombe. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. والله عجيب. السلف الصالح. Les pieux prédécesseurs, c'est vraiment étonnant leur situation. Il va leur interdire un certain nombre de choses, et dans cette situation, ils lui disent: tu as entendu quelque chose dans ça? Il lui demande la preuve. Il lui demande: est-ce que tu as entendu le Coran? Est-ce que tu as entendu un hadith? Et lui dit: na'am, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que s'achève le chapitre concernant ce qu'il faut dire à l'individu qui est à l'agonie et qui est sur le point de mourir. On s'arrête ici, inshallah. Allahu alam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك